Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il y a un peu plus d'un an, nous avons lancé le site Les Déviations, qui raconte des histoires de gens qui ont changé de vie. Or, s'il n'y a pas de changement sans rupture, même mineur, il n'y a pas non plus d'histoire sans rupture, puisqu'une bonne histoire, un bon scénario, raconte avant tout la modification d'une situation, une rupture dans la linéarité de nos vies. La rupture, les ruptures, c'est le thème du livre de notre invité du jour.
Dans ce nouvel épisode, nous sommes deux à recevoir Claire Marin, professeure de philosophie et auteure de Rupture, au singulier ou au pluriel, un ouvrage paru dans la collection La Relève, des éditions de l'Observatoire. Toutes les trois, nous allons discuter du changement de vie, des accidents, des sorties de route, des rébellions qui jalonnent nos quêtes de sens. Nous allons parler de chocs, de lignes droites dont on peut dévier, de ruptures, celles qui nous permettent enfin de devenir nous-mêmes.
Je crois que malheureusement, bien partir ou bien rompre, c'est une question qu'on me pose souvent, comment on fait pour rompre en douceur. Et je fais souvent la comparaison avec comment un médecin annonce un diagnostic difficile au patient. Je crois que même s'il essaye de l'annoncer de la manière la plus humaine possible, de toute façon, ça fera violence. De toute façon, ça sera un choc, etc. Et souvent, dans les références que moi j'ai utilisées en littérature, quoi qu'il arrive, celui qui part a le sentiment de partir comme un voleur. Il a le sentiment qu'il ne sera pas compris, parce que ses aspirations sont tellement différentes, ou ses besoins sont tellement différents de l'endroit d'où il vient, de son milieu d'origine. Quoi qu'il arrive, il donnera l'impression qu'il trahit, qu'il renie. Et souvent, il y a ce sentiment-là de forte culpabilité d'avoir rompu, quand bien même on le fait pour se sauver. Donc, dans les différents romans ou textes autobiographiques que j'ai cités, on avait cette espèce de double peine d'avoir subi une violence et d'être identifié comme celui qui en produit une, dans une espèce de renversement très injuste de la lecture du processus de rupture.
Et est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des ruptures tranquilles qui se font sans violence, ou vous pensez, avec le travail que vous avez effectué, que non, il faut forcément un choc, ou ça passe par des burn-out, ou des dépressions, ou des maladies?
Le terme de rupture, déjà, il dit quelque chose comme une violence. Peut-être qu'il y a des changements de vie qui se font effectivement de manière beaucoup plus douce, lisse, pacifique. Quand le changement est important, il y a quand même quelque chose de cet ordre, au moins du choc émotionnel ou psychique. Quand on perd son travail, quand on quitte son conjoint, quand on perd un être proche, on est face à une espèce de petite révolution dans la redéfinition de soi. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que même celui qui décide de rompre, ça ne se fait pas pour autant facilement. C'est-à-dire qu'il y a quand même tout un processus de déchirement. Enfin, d'après moi, dans la rupture, il y avait des choses qui étaient mélangées et qui, dans leur séparation, sont abîmées quand même. Et on garde des traces ou des cicatrices de ce qu'on perd. Si ça se passe doucement et facilement, c'est que c'est pas une rupture, en fait, par définition. Dans la rupture, on a en gros un avant, un après. On a des dates, on a un calendrier en tête, il y a des moments précis qui, justement, restent mémorisés parce qu'ils ont été marquants et souvent marqués par des affects, si ce n'est douloureux, en tout cas très intenses. Voilà. C'est pas forcément que des chocs négatifs, je pense. Enfin, dans la naissance, il y a aussi, heureusement, des émotions très belles et très intenses. Mais il y a, oui, un degré d'intensité du vécu qui marque l'individu, qui le transforme.
J'ai entendu les témoins, les gens que j'interviewais, parler de période blanche. Après un choc, une période qu'on peut aussi qualifier de jachère fertile et où finalement il se passe plein de choses alors qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien. Ça peut être 6 mois, 1 an, 2 ans dans son lit à regarder le plafond parce que effectivement l'époque fait que quand on vit une rupture, on voudrait changer très très vite de vie, avoir tout de suite une solution, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une période de latence. Ça, vous l'avez observé aussi à travers les écrits que vous avez cités
Oui, il y a plusieurs schémas. Il y a effectivement quelque chose comme une période blanche où on a l'impression de rien faire, rien vivre, qui peut ressembler vaguement à une dépression, en fait. Et puis, il y a aussi des configurations qui sont plus dans la sidération quand la rupture est vécue, où là, c'est le choc de l'émotion ressentie qui fait qu'on est, comme figé. Et on fait tout en mode automatique sans être vraiment présent à soi-même. Et là encore, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut ce temps un peu de digestion. Et puis, j'aime bien votre idée d'une jachère fertile parce que je crois que c'est aussi un peu ça. C'est que dans ce temps-là, on se réapproprie des possibles ou des capacités qui avaient été voilées ou qui étaient restées silencieuses. Et parfois qu'on va repuiser dans l'époque d'avant, c'est-à-dire... qui on était avant d'être dans ce couple ou qui on était avant de décider de faire ce métier. Et on retrouve parfois des possibles de l'adolescence auxquels on va donner une forme mature, adulte, etc. Mais parfois dans un magazine, on dit « qu'est-ce que tu dirais à l'enfant que tu étais ?» Mais en fait, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. C'est-à-dire que c'est Bergson qui dit à un moment, au fur et à mesure qu'on vieillit, on abandonne des possibles derrière nous comme des fantômes. Et moi, je crois qu'on ne les abandonne pas. Enfin, qu'ils restent justement un peu comme des fantômes. Et la rupture, ça peut être un moment de se les réapproprier, de revivifier ces espèces de présences vagues et de leur donner une densité. Et oui, pour les incarner, pour rentrer dans ce nouveau personnage, oui, il y a effectivement du temps d'appropriation, d'adaptation.
Ce temps, vous l'avez estimé? Vous avez rencontré des gens, justement, qui ont fait ce type de rupture?
Alors moi, je me suis essentiellement basée sur la littérature, mais beaucoup de textes autobiographiques. Et par exemple, Charles Julliet, qui est l'une des références avec laquelle j'ai bien aimé travailler, il parle de 10 ans. 10 ans pour assumer ce choix de quitter l'école militaire où il était formé pour devenir médecin, etc. Et je pense quand même qu'il s'agit de temporalités assez longues. Mais encore une fois, en m'appuyant sur... un corpus qui est essentiellement littéraire. J'ai pas fait d'interview, enfin j'ai pas fait un travail ni de psychologue ni de sociologue. C'était plutôt des parcours autobiographiques que la littérature nous offrait qui m'ont inspirée.
Vous avez aussi un chapitre que vous avez appelé le plaisir de la dispersion, que moi je voyais justement comme un peu un plaidoyer pour sortir de la route tout tracée et de s'autoriser à être plusieurs personnes sans que ce soit forcément douloureux, mais qu'on s'autorise à le faire, ce qui n'est pas forcément naturel. En tout cas, j'ai l'impression en France que ce n'est pas toujours des parcours qui sont valorisés. On se méfie un peu des gens qui font plusieurs choses.
Oui, ce qu'on aime bien, c'est les parcours cohérents, où il y a une logique, alors que dans d'autres cultures, on va valoriser la capacité d'un étudiant à partir un an à l'étranger, à multiplier les expériences dans des domaines professionnels très différents. Et... si ça a bien été pensé au niveau de la fatigue que ça engendre, c'est Ehrenberg, le sociologue, qui l'a bien dit. Il faut qu'on soit parfait, performant dans tous les domaines. Ça nous épuise, dans son livre qui s'appelle « La fatigue d'être soi ». Et moi, j'avais bien aimé, chez le poète Henri Michaux, l'idée qu'il pouvait, au contraire, y avoir un plaisir, une joie, une espèce de jeu dans le fait d'avoir... différents personnages, sans que ça soit inauthentique, sans que ce soit de la dissimulation ou des personnages socio-factices. Je pense que au sein d'une même personne, différentes manières d'être qui se développent aussi dans le contact, c'est-à-dire selon la personne face à laquelle je me trouve, je ne vais pas développer les mêmes capacité, la même manière de parler. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant, de voir ce que l'autre me fait devenir, ce qui ne veut pas dire qu'à l'intérieur je suis vide ou que je suis toujours dans le caméléon, mais dans les choses qui me semblaient heureuses dans la rupture, c'est que parfois on est libéré d'un cadre qui nous restreignait et on découvre d'autres manières d'être, on découvre qu'elles sont juxtaposables ou qu'elles peuvent cohabiter. Et qui a un plaisir justement à changer un peu de manière d'être. Et du coup, la dispersion n'a plus ce côté négatif de la personne qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. On peut vouloir plusieurs choses en même temps, sans que ce soit pour autant un mensonge qu'on fait aux uns ou qu'on fait à soi. Ça peut être aussi un plaisir existentiel, si on peut dire, que chacun peut connaître.
Vous parlez à un moment de personnes qui quittent une belle carrière pour affirmer quelque chose de plus essentiel. Qu'est-ce que ça dit justement de comment on apprécie la réussite ? Est-ce que justement la réussite est plus dans la stabilité, dans la sécurité financière, mais plutôt dans l'accomplissement aussi de oser être vraiment celui qu'on a toujours rêvé d'être ?
Alors même avant d'être dans l'idée d'un accomplissement de soi, il y a quelque chose comme une recherche du sens de ce qu'on fait. Et moi, ce qui me frappe avec d'anciens étudiants, c'est de les entendre finalement dire leur déception par rapport à des beaux parcours professionnels qu'ils ont pu faire et leur déception face aux tâches qu'on leur demande d'exécuter, qui sont finalement hyper répétitives, pas très créatrices et qui assez rapidement leur apparaissent comme manquant complètement de sens. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois et pour moi c'était assez étonnant parce que c'était parfois des étudiants qui venaient de milieux modestes, donc qui auraient pu vraiment être contents de cette réussite professionnelle, mais qui étaient vraiment très très critiques sur la vacuité des tâches qui leur étaient demandées et sur le sentiment aussi d'être très remplaçable en fait, c'est-à-dire c'est des tâches où on ne peut pas exprimer quelque chose de singulier, de personnel. Quelqu'un d'autre pourrait le faire de la même manière, parce que c'est très codifié, informatisé, etc. Et du coup, qu'est-ce que je mets de moi-même dans mon travail ? Qu'est-ce que ça dit de moi ? À part des capacités que peut-être un ordinateur pourrait avoir aussi, ça a quelque chose de très déstabilisant, en fait. Donc, ouais, il y a cette recherche du sens qui apparaît quand même dans certains changements de vie. C'est la déception qui surgit aussi dans les milieux très créatifs. C'est-à-dire, on fait des études qui nous mènent dans le milieu du cinéma et puis, en fait, c'est pas du tout, on n'est pas du tout à des postes où notre créativité est stimulée. On peut être aussi déçu par une part d'artifice de certains milieux qui, a priori, font rêver et puis au sein desquels on se retrouve à faire des tâches finalement pas très valorisante et pas très imaginative. Donc, il n'y a pas de milieu qui soit préservé, je crois, par la déception possible. Et puis après, il y a la question aussi du contexte professionnel, des gens avec qui on travaille. Et là, on retrouve d'autres questions qui sont celles de forme d'homogénéité quand même en France, de certains milieux professionnels et de leur difficulté à intégrer des individus qui ont des parcours sociaux, familiaux, différents de la norme dominante. Donc il y a aussi ce genre de sentiment d'être rejeté, ou en tout cas de ne pas être accueilli à bras ouverts, qui peut jouer un rôle dans le fait de renoncer à la belle carrière pour laquelle on a tellement travaillé pendant toutes ces années. Ça.
Est-ce que justement le burn-out, ça serait ce mensonge qu'on se fait un peu à soi-même, changer de vie, c'est aussi cette question à résoudre est-ce que j'ai le droit de me plaindre et est-ce que j'ai le droit de quitter ce travail-là qui semble parfait pour les autres ou même que je croyais parfait pour moi ?
Oui, ce qui est un frein au fait d'oser se le dire à soi-même, etc., c'est aussi l'incompréhension qu'il y a autour. C'est-à-dire, tu n'as pas fait ces grandes études pour rien, sans compter qu'il y a aussi d'autres types de pressions. C'est que parfois, c'est des études qui ont coûté cher, lesquelles la famille s'est investie, a fait des sacrifices, etc. Donc, parfois, on se sent obligé, en fait, aussi de rembourser sa dette réelle ou symbolique hein, à l'égard de ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, participé à cet effort. Et parfois, la maladie, le burn-out, est une manière de dire ce qu'on n'arrive pas à dire autrement. Enfin, voilà, le corps parle à notre place parce qu'on touche à nos limites psychiques. Donc parfois on a besoin de passer par cette matérialisation pour que les autres voient à quel point on est malheureux. Et comme ça, ils peuvent un peu plus accepter cette décision qui leur paraît incompréhensible et qui peut, de l'extérieur, sembler être de l'ordre du caprice. Alors qu'en réalité, c'est très profond, c'est existentiel, identitaire pour le sujet.
Je voudrais parler du regard des autres, qui m'a l'air d'être un élément fondamental, enfin hyper présent dans la rupture. C'est l'élément principal qui empêche de rompre, visiblement.
Oui, il y a la force du jugement de l'autre ou des autres, des proches, mais aussi des collègues, des voisins, etc., qui pose la question de « est-ce que je vais assumer ?» ce choix, pour qui je vais passer, est-ce que j'aurai l'air du salaud, est-ce que je vais avoir l'air de quelqu'un d'inconstant, d'irrespectueux, un traître, voilà. La figure de celui qui rompt, elle peut être valorisée et de plus en plus dans nos sociétés, on va y voir une forme de courage, etc. Mais dans un certain nombre de configurations, et notamment dans la configuration intime, souvent les proches sont touchés de manière assez violente par cette rupture. On perd des amis, on perd des collègues, on perd des relations avec ses frères et sœurs ou avec ses parents autour de certains choix affectifs, professionnels, qui sont liés à des ruptures.
Qu'est-ce qui est en train de changer dans la société ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le développement personnel qui peut paraître un caprice, ou pourquoi tu te regardes le nombril, pourquoi tu veux tant t'accomplir, pourquoi aujourd'hui ça commence à être un peu mieux vu et même presque à la mode, qu'est-ce qui explique ce changement-là?
Bah parce que souvent, d'une manière un peu simplificatrice, à mon sens, ça va être lié à l'idée du bonheur. Moi, je pense que la rupture ne garantit pas du tout le bonheur, qu'on peut rompre et se tromper, on peut faire le mauvais choix, on peut ne pas réussir à développer celui qu'on voulait être. C'est bien beau de vouloir devenir comédien, mais ce n'est pas pour autant qu'on va vraiment réussir à être reconnu comme tel, quel que soit son talent d'ailleurs. Moi, c'est ça qui m'agace un peu dans ce type de représentation parfois, c'est d'idéaliser la rupture comme s'il avait un pouvoir magique et que on allait enfin, avec cette nouvelle femme, avec ce nouveau travail ou en partant vivre en Australie, être capable de réaliser un moi qui est meilleur, qui est plus épanoui, qui est plus généreux, plus altruiste. Là aussi, il y a une part d'illusion. Il n'y a pas de dialectique automatique du négatif en positif. Mais évidemment, c'est quelque chose qu'on a envie d'entendre. On adore ces témoignages où, après un changement de vie, on devient un grand comédien, ou on monte une entreprise qui a du sens, qui est généreuse, où les gens aiment travailler, etc. Donc, le problème, c'est qu'il y a d'autres parcours de rupture, avec ceux qui regrettent le confort antérieur, qui se rendent compte aussi de ce qu'ils ont perdu.
Alors, je suis absolument d'accord avec vous. Et quand j'ai lancé les déviations, et donc que j'ai cherché des témoignages de gens qui avaient changé de vie, je me suis dit qu'il allait y avoir évidemment beaucoup d'expériences ratées. Alors j'imagine que les expériences ratées, ceux qui ont vécu ça n'ont pas forcément envie de les raconter, mais j'ai vu beaucoup de témoignages qui sont en général extrêmement galvanisants, positifs et inspirants, où la rupture ne mène pas à une grande réussite, mais à un réajustement qui au final est quand même toujours assez vertueux. J'ai eu l'impression que le plus important était de se retrouver, de se donner une impulsion, que le chemin était presque plus important que l'arrivée finalement.
Ouais, ce qui arrive, c'est qu'on peut avoir l'impression de rompre pour une raison particulière, et en fait on se rend compte que ce qu'on a quitté, c'était pas nécessairement ce qu'on voulait vraiment changer. En fait, ça m'a frappée en réécoutant une lecture du texte de Didier Ribon, Retour à Reims, où il dit qu'il a eu l'impression de partir pour assumer son homosexualité et qu'en réalité, ce qu'il voulait assumer, c'est de devenir un intellectuel et que dans le milieu d'origine qui était le sien, c'était inimaginable. Donc parfois, on rompt avec peut-être un objectif spécifique en se disant « bon, bah, c'est le domaine amoureux qui va pas ». Et en fait, on se rend compte que c'est le domaine professionnel qu'on veut changer ou inversement. Et on va avoir autour de la figure, je ne sais pas, d'une nouvelle compagne ou d'un nouvel endroit, un fantasme de changement qui, en fait, va se réaliser ailleurs. C'est-à-dire, en fait, je vais changer de métier. Donc il y a aussi, je crois, des passerelles entre les différents domaines de la vie. Et la rupture peut être nécessaire, mais on peut peut-être dans un premier temps se tromper sur ce d'avec quoi on a besoin de rompre.
Bon, puisqu'on est avec une philosophe, quelle philosophie de vie adopter quand on est dans des paradoxes ? Quel est l'état d'esprit dans lequel on doit essayer de se mettre pour pas passer à côté de sa vie et être en quête toujours ?
Moi, je pense qu'il y a une vertu des rencontres. On parlait tout à l'heure du plaisir de la dispersion. Je crois que ce qui peut être vraiment aidant dans ce genre de situation où on doute, etc., c'est de démultiplier les moments où on sort un peu justement du cadre dans lequel on vit. Donc, de manière assez simple, hein, mais discuter avec des gens qui font des choses parfois très différentes, y compris si leur milieu ou leur manière de vivre ne nous tente pas du tout. Ça peut, des fois, créer un déclic. Enfin, moi, je suis frappée de voir comment certaines phrases qui ont pu être marquantes n'étaient pas des phrases, justement, qu'on allait tirer d'un livre de philosophie ou d'une grande sagesse orientale, mais qui pouvaient être prononcées un peu comme ça, au hasard d'une conversation qui, a priori, n'avait rien à voir avec nous, mais la phrase va résonner. Et peut-être il faut juste cette espèce de disposition d'esprit à entendre des choses ou à saisir des modèles dans des cadres qui sont parfois quotidiens, banals, etc., mais qui vont finalement dire quelque chose d'assez profond sur le changement dont on a besoin. Donc il faut être ouvert, en fait, là encore, à des nouvelles rencontres ou des nouvelles relations, ou des nouvelles musiques ou des nouvelles lectures. Voilà. Il y a quelque chose de la nouveauté qu'il faut laisser entrer.
Claire Marin, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode des Déviations.
Merci à vous.
Cet entretien était conduit par Laurence Velli et Virginie Dumière et réalisé par Sidney Clazen pour Les Déviations. Les Déviations racontent l'histoire de ceux et celles qui ont changé de vie. Pour ne rien manquer de nos portraits et de nos conversations, rendez-vous sur notre site lesdéviations.fr ou abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook ou notre compte Instagram. Les Déviations est un média indépendant. Pour le faire vivre, écrivez-nous, parlez-en autour de vous et dites-nous avec 5 étoiles que vous nous soutenez. À bientôt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.